Autre radio, autre culture, bonjour. Cette semaine, Autre radio, autre culture et Audio People sont allés au-devant des rencontres de la création sonore 2009 qui se sont déroulées à la SAE, School of Audio Engineering.
Bonjour tout le monde. J'aimerais bien savoir à qui j'ai affaire. Est-ce que c'est les gens qui vont faire les studios, qui sont en train de faire les studios, qui sont en train d'améliorer les studios, qui ont déjà les studios et tout est parfait et qui veulent juste venir écouter les bêtises d'un Anglais qui habite en Suisse? Alors, combien de monde sont en train de faire un studio?
Plusieurs.
Est-ce qu'il y a les gens qui sont en train d'améliorer un studio qui existe? Et puis, est-ce qu'il y a des gens qui sont dans le studio où tout est parfait? Ah! Donc, l'acoustique des studios d'enregistrement. Je vais faire un petit survol de ce que moi, j'estime, c'est les questions qu'on doit se poser quand on est en train de faire un studio. Après, notre ami Pierre Borel, qui a fait son studio en Suisse toute seule, alors comme ça il peut vous apporter son expérience de comment il a fait, les problèmes, etc., etc., qui pourrait être surtout intéressant pour les gens qui vont faire la même chose. Donc ça veut dire qu'on n'a pas énormément de budget, donc il faut qu'on rentabilise le plus possible les fonds limités à disposition. Alors, première question, quel est le but de votre studio? Moi j'étais souvent dans les cas où je discute pour un projet, je vais dans le studio, il me donne toute une histoire, le matériel, pipi, et je dis, alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Quel est le but? Ben, qu'est-ce que vous voulez faire? Quel est le but du studio? En fait, on aimerait faire ça. Donc, ça veut dire que c'est une question qui se n'est jamais posée. Alors, ça, c'est une des premières choses. Quel est le but de votre studio? Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que c'est un petit studio, studio moyen, grand studio? Est-ce que c'est pour la musique? Est-ce que c'est pour les démos? Est-ce que c'est post? Est-ce que c'est film? Donc, le moment qu'on a établi le cahier des charges, on peut aller beaucoup mieux cibler le planning. Quel est le résultat souhaité? Si c'est un studio qui va faire les démos, peut-être vous avez besoin d'une qualité qui est bonne, mais ce n'est pas la qualité nécessaire pour faire un disque, parce que c'est surtout pour faire une démo, pour mettre les idées. Bon, avant, on aurait dit sur bande, maintenant, on dirait sur flash disk ou disque dur. Bref, c'est aller faire une présentation et après, on va dans un studio dit professionnel. Donc, OK, quel est le but? Qu'est-ce que vous voulez faire? Quel est le résultat? Et puis, est-ce qu'on va changer de page? Ça sera formidable. Sujet de discussion, les lieux. Stéréo ou multicanal, audio seulement ou audiovisuel, donc AV, donc c'est un acronyme qu'on trouve assez souvent. J'étais aussi souvent dans les cas avec les gens que, évidemment, ils n'ont pas beaucoup de sous, bon, c'est le cas de nous tous, qui voulaient faire les studios dans la dernière place où il faut faire un studio. Donc ça veut dire qu'ils ont le plafond qu'ils peuvent toucher avec la main, et il y a un voisinage bruyant, il y a des trous dans le mur. Et puis, est-ce qu'on peut faire ça pour 3 000 euros? Je dis, bon, ouais, si vous voulez mettre 2 950 euros juste pour l'isolation, peut-être on pourrait commencer à faire quelque chose. Donc, il faut trouver déjà les lieux appropriés. Ce n'est pas facile, je sais, mais ça vaut la peine d'aller chercher. Stéréo multicanal, est-ce que vous allez travailler en stéréo ou est-ce que vous avez une entrée pour aller vers le multicanal? Le multicanal n'est pas que l'audiovisuel. On avait fait une présentation d'un nouveau système haut-parleur de PSI dans une configuration multicanal ou le 5.1. On a passé les extraits de films et la musique en multicanal. C'était intéressant, il y avait pas mal de jeunes qui disaient « Oh, mais la musique en multicanal, je ne le sens pas vraiment. » Mais c'est dommage parce que, à mon avis, et puis l'avis de beaucoup de monde, le multicanal a énormément à offrir pour les productions musicales. Donc, ce n'est pas quelque chose à alt, va dire rétro multicanal, il faut essayer de l'accueillir. Donc, côté business, est-ce que vous allez travailler que l'audio? Est-ce que vous allez travailler avec l'image? Et puis, quelle est votre clientèle? OK, les lieux, est-ce qu'ils sont appropriés? Est-ce qu'il y a déjà une isolation quelconque dans le bâtiment? Est-ce que c'est dans le sous-sol? Est-ce que c'est plein pied? Est-ce que c'est au 10e étage? Et puis, vous avez une console qui pèse 3 tonnes à monter, etc., etc. Si je pourrais donner une petite conseil seulement, c'est essayer d'avoir une place où vous avez une hauteur de plafond adéquate. Là, de nouveau, si on est dans un bâtiment domestique, ou, comme les apparts, ou un HLM, ou des choses comme ça, je sais que c'est difficile, mais si vous pouvez trouver au moins un minimum de 3 mètres, c'est déjà un bon début. OK, 2 mètres 80, ah, les Suisses, 2 mètres 80, allez, on est à Paris, mais moins, vous commencez à déjà serrer un petit peu. Quelles sont les dimensions? Est-ce que vous allez faire un studio qui est dans un armoire à balai ou est-ce que ça va être un lieu de travail qui est assez grand? On pourrait juste vite dire ici que pourquoi pas une toute petite pièce, qu'est-ce qui ne va pas? Ben, le problème, c'est que toutes vos productions, pour la plupart, vont sonner comme s'ils étaient faits dans une toute petite pièce. Moi, j'avais assez à faire souvent avec les présentations audiovisuelles. Donc, les gens, ils avaient fait peut-être dans un cadre broadcast ou autre, où la cabine son est vraiment ça. C'est une cabine. Le monsieur, il a 2 autres parleurs de surround qui sont boîtes aux allumettes là. Alors, pour lui, les surround, ouais, c'est parfait, super. On met ça dans un grand auditorium, sur un grand écran. Oh, mais les surrounds ne sont pas assez forts. Oh, c'est terrible. Mais bien sûr, parce que vous avez mixé dans un tout petit place comme ça. Maintenant, vous êtes dans un auditorium comme ça, où vous avez les autres par 10 mètres chaque côté. Bien sûr, c'est pas fort. Donc, ça, c'est toujours quelque chose à garder en tête. Quels sont les lieux? Et puis, même les gens chez eux, si c'est pour la musique. Même si c'est une chambre à coucher ou un salon, c'est fort probable que leur pièce sera plus grande que beaucoup de petits studios. Donc, encore quelque chose à voir. Bon, voilà, ça, nous avons déjà parlé. Est-ce que la hauteur du plafond est suffisante? Donc, moi, je dirais, allez, on est généreux. Un minimum de 2 mètres 80, mais plus est toujours meilleur. Est-ce que l'isolation acoustique est importante? Donc, ça veut dire, est-ce que vous avez un voisinage qui va se plaindre s'il y a le moindre bruit qui se fait après 10 heures le soir? Bon, on va isoler. Oui, mais le problème, c'est que maintenant, si vous devriez isoler beaucoup, ça fait déjà peut-être 90% de votre budget qui est déjà loin. L'isolation coûte cher. Et c'est surtout pour les fréquences basses qui nous font beaucoup de misère. Donc, il faut beaucoup de poids, il faut beaucoup de rigidité. Bref, beaucoup de main-d'œuvre. Donc, on revient toujours. Ça vaut vraiment la peine pour trouver la place qu'il faut plutôt que de dire « Oh, mais ça, c'est bien. » Et puis, allons-y, go. Et une autre chose, de nouveau, c'est assez évident, mais vous seriez surpris ou peut-être pas surpris de savoir qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas vraiment regardé pour le budget. Alors, ils sont bien, peut-être avancés dans le projet, peut-être à 50%, et on est à 90% de dépenses. You cannot beat the laws of physics, Captain, said Scotty in Star Trek. C'était vrai il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, et c'est aussi vrai aujourd'hui. Malheureusement, dans l'acoustique et les choses associées, il y a énormément de folklore. On m'a dit, ou quelqu'un a dit à quelqu'un qui m'a dit, à son copain qui m'a dit. Oui, mais il fait quoi? Ouais, bon, ouais, il est, je sais pas, il est éboueur, et puis il a fait une petite chose chez lui. Donc, OK, on va pas aller dans les hautes volées de la physique, mais c'est quand même une science, et puis si on suit quelques règles de base, on pourrait faire quelque chose de bien. Comme avec beaucoup de choses, le 95%, si on s'applique, c'est bon, c'est le dernier 5%, ou tout un coup, l'écoute crève le plafond, mais c'est pas le but de ça aujourd'hui. OK, stéréo, multicanal. Le stéréo et le multicanal ne sont pas la même chose. Donc, c'est deux applications différentes. On n'est pas là pour dire que l'une est meilleure que l'autre. Ça, c'est pas la question. On est toujours dans la question de définir le cahier des charges. L'acoustique de votre régie en fonction des deux situations. Je sais, c'est évident de nouveau, mais le stéréo, c'est deux haut-parleurs ou deux moniteurs. Le multicanal, on est déjà à 5 avec au moins un subwoofer. Juste pour la petite histoire, si vous avez la place et le budget, 2 est déjà mieux et 3 ou 4, c'est encore meilleur. C'est pas une question de volume ou d'autre chose, mais c'est comme on va voir dans un instant, il y a ce qu'on appelle les modes, les room modes, où c'est beaucoup plus difficile à faire le réglage et trouver la bonne place pour un subwoofer avec un que si vous avez plusieurs. Donc là, on est dans une situation de distribution sonore. Donc c'est pas une question qu'on va faire une discothèque à crever le bâtiment chez soi. On pourrait dire qu'il y a 3 systèmes qui sont assez primés aujourd'hui. Il y a le 2-1 que, franchement, j'aime assez bien. Donc, ça veut dire qu'on a le gauche-droite principal plus un ou deux subwoofers qui vont faire une extension pour les fréquences graves. Donc, de nouveau, ce n'est pas fait de boum, 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 boum. C'est pour avoir une bonne plage de fréquences. Et puis, si on est dans une pièce qui n'est pas trop grande, donc ça veut dire peut-être qu'on est un tout petit peu limité sur la taille des moniteurs. Ça serait peut-être bien d'avoir un moniteur de taille moyenne, mettons, avec un caisson de basse ou deux caissons de basse qui vont faire une extension pour qu'on ait un meilleur rendement pour les fréquences graves. Le 5-1, bon, tout le monde sait le 5-1, donc on a nos 5 canaux, gauche, centre, droite, surround gauche, surround droite, et le LFE. Allez, oui, je vais dire quelque chose sur le point 1, parce qu'il y a toujours énormément de confusion là-dessus. Alors, le 5.1, c'est un format cinéma, et le point 1, c'est ce qu'on appelle le LFE, Low Frequency Effects, ou les effets de fréquence basse. J'ai entendu quelqu'un dire c'est low frequency enhancement. On pourrait dire oui, mais c'est pas la traduction juste de LFE. Donc c'est un canal dédié qu'on utilise pour les effets de grave, pour les explosions, pour les voitures, bref, tout ce qu'on peut trouver. Qu'est-ce que ça a à voir avec la musique? Bon, moi, si vous avez un grand orgue avec les tuyaux de 64 pieds, mettre ça dans le canal LFE, ça pourrait être une très bonne idée. Et il y a le 7.1, on pourrait dire qu'ils ont pris l'idée de SDDS, que de nouveau c'est un format cinéma, où on a, au lieu de les 3 canaux derrière l'écran, on a 5, comme c'était dans les années de gloire de le 70 mm, où on a gauche, centre, droite, et puis entre le gauche et le centre, on a encore un canal, et la même chose entre le centre et la droite. Aujourd'hui, on a le gauche, centre, droite derrière l'écran, ou frontal, et surround gauche, surround droite, arrière gauche, surround arrière droite. Et puis l'autre chose qu'on pourrait dire, c'est que si vous allez faire un studio, ou régie plutôt, en stéréo, peut-être il faudrait bien se poser la question d'ici une année, 18 mois, est-ce que j'aurais envie d'aller vers le 5.1? À ce moment-là, il faut prévoir la construction, l'acoustique de la régie, que vous puissiez installer les haut-parleurs sans que vous ayez besoin de démolir la moitié de la pièce. L'audio sol, audiovisuel, OK, est-ce que vous allez faire le son pur ou le son pour l'image? Si vous allez faire le son pour l'image, vous avez besoin des images. Et puis, ça sera soit avec un projecteur sur écran ou avec un grand écran vidéo genre plasma LCD. Maintenant, pour moi, le choix de la projection ou les écrans vidéo dépend du contenu. Je sais qu'il y a les gens qui ne sont pas du tout d'accord avec moi, c'est leur choix et je n'ai pas de problème avec ça. Et puis il y a beaucoup de monde qui travaille pour le film avec un écran vidéo, mais ce n'est pas la meilleure chose. Et puis si vraiment vous allez faire du film, il faut avoir un bon écran d'une certaine taille avec un bon projecteur. Pourquoi? On va juste illustrer ça avec une histoire célèbre, c'est qu'il y a quelqu'un qui commence à faire les bruitages. On lui donnait les rushs, ok, il travaille sur les... et puis il a mis sur un écran avec l'ordinateur, bref, il a fait son travail. Il vient le mettre en scène, projection sur le grand écran. Le metteur en scène dit, ouais, mais vous êtes seulement commencé le travail ou... Non, c'est fait. Oui, mais... Il y a la voiture qui passe, je ne l'entends pas. Il y a ça qui se passe, je ne l'entends pas. Alors le problème, c'est que notre jeune personne n'a pas vu ce qui se passait sur l'écran parce qu'il avait son petit moniteur là, son petit écran là, avec une résolution qui n'était pas terrible. Donc, il n'a pas fait un bruitage qui convenait à l'image. Donc, de nouveau, votre choix de comment vous allez faire un studio et comment vous allez le faire dépend beaucoup du genre de travail que vous allez faire. Je serai tout à fait d'accord, il y a un problème de place. Donc, avec un écran, donc peut-être vous aurez besoin d'un écran qui fera 3 mètres ou quelque chose comme ça. Donc, peut-être il y a la part de place à ce moment-là. Vous prenez une bonne plasma ou LCD de 42 ou 50 pouces. TV, bon, maintenant, on a beaucoup parlé, mais la télévision HD est là, est bien là. Il y a actuellement plus que 50 différents canaux qui émettent en HD, et puis on pourrait dire que ça augmente presque une par semaine, si ce n'est pas plus. Et je suis sûr que notre ami professeur Deleuze pourrait nous donner plus d'informations si on voulait là-dessus. Bref, le HD, c'est ici, donc... Travailler sur la définition standard ou le SD, oui, ça pourrait aller, mais plutôt viser le HD. Et film, évidemment, bon, là, de nouveau, vous aurez besoin d'une certaine qualité d'image et de projection. La clientèle, qui seront vos clients? Donc, l'accueil du studio et l'ambiance vont varier selon votre clientèle. Ça, c'est la présentation d'un studio est très important. OK, si vous faites un studio demo, c'est pour les copains, c'est pour les amis. Bon, ils me connaissent, je fais un bordel, mais c'est pas possible. Mais si c'est une clientèle qui vont venir payer, c'est les gens qui payent les chèques qui aiment savoir qu'est-ce qu'ils vont avoir pour leur argent. Alors, si on commence à dire, ouais, j'ai telle et telle console, j'ai telle et telle workstation, j'ai telle et telle. Là, ils n'ont rien à faire. Vous dites que vous êtes un studio pro, mais bien sûr, vous avez le matériel pro. Vous n'avez pas besoin de faire du marketing là-dessus. Mais par contre, si vous avez des jolis tapis, super bas, super nana derrière là-bas, etc., etc. Ah, il faut impressionner la personne qui passe la porte, qui va signer le chèque. Les gens qui me connaissent un peu me reprochent, « Ouais, mais ça, c'est ton côté Hollywood et tout ça. » Mais le tape à l'œil, c'est du showbiz, et détrompez pas. Vous, on est dans le showbiz. Donc, il faut toujours un petit peu de pizzas pour... Et puis aussi, les gens qui viennent dans un studio, ils disent « Wow !» Ils sont déjà dans l'attitude que ça va être bien. Alors, s'ils viennent et puis ils disent « Mais dis donc, c'est un petit peu comme le garage de ma grand-mère quand on avait le vieil de chevaux. » À ce moment-là, ils vont... avoir l'impression que c'est ça qu'ils vont faire niveau travail. Donc, de nouveau, il faut mettre les gens dans le bain, il faut les encourager. Et donc, est-ce que l'espace est suffisant pour accueillir vos clients? Donc, ça veut dire, est-ce que vous avez assez de place? Donc, peut-être juste prévoir quelques mètres carrés de plus pour que tout se passe bien. Ah, l'acoustique. Je crois que la conférence était sur l'acoustique. Alors, les dimensions de base et la forme de la pièce. Donc là, on vient un petit peu dans les bases. Si vous pouvez trouver une pièce avec une forme rectangulaire, ça, c'est le mieux. Il faut éviter les carrés. Parce que là, on va avoir tout de suite les problèmes avec les modes, les résonances et quantitutti. Il y a un petit peu le folklore qui dit, oui, mais si j'ai un trapézoïde ou donc la forme est régulière, ça va être bien. Mais non, en fait, c'est pas vrai. Ça pose souvent plus de difficultés que de points positifs. Et puis, comme on est tous les modules des ordinateurs, et peut-être on a envie d'apprendre les logiciels pour prédire la performance acoustique, c'est très difficile de faire. Donc, si vous avez une salle qui a une forme irrégulière, vous allez sûrement vous trouver de faire les murs de base en forme de rectangle pour faciliter la vie et aussi le son. L'autre chose à éviter à tout prix, c'est les cercles ou les ovales. Ça a l'air peut-être super sympa, mais c'est la galère sans fin niveau son. Les proportions. OK, bon, voilà. Il y a beaucoup de bons livres sur l'acoustique qui peuvent donner les proportions ou un search Google. Mais là, on va dire que si vous avez une proportion de 1.3 sur 1, ça représente déjà une très bonne base de départ. Malheureusement, dans les studios ou autres, les fenêtres et les portes sont toujours à la mauvaise place. Mais bon, de nouveau, est-ce que j'ai besoin de toutes ces portes? Est-ce que j'ai besoin de toutes ces fenêtres? Il faut voir. Des fois, il faut faire des compromis. Personnellement, pour une régie, si vous avez trouvé une pièce, par exemple, comme ici, avec une fenêtre, moi, je trouve que c'est très agréable d'avoir la possibilité de travailler avec la lumière du jour, mais il faudrait prévoir les rideaux, les stores ou quelque chose comme ça pour quand il faut bloquer la lumière un peu sans trop de problèmes. La disposition principale est un mariage entre la ou les positions des haut-parleurs, les modes et la place du mixeur ingénieur. Donc, c'est un petit peu comme la lutherie. Les trois choses qui définissent une guitare ou un violon ou l'autre, c'est chevalet, ponté, et puis à ce moment-là, on a ces dimensions, à ce moment-là, on a la base, et puis après, on fait le cours, on fait la manche, et tout ça autour. Et puis, on pourrait dire que c'est la même chose pour une régie. Donc, la place d'écoute du mixeur, l'ingénieur du son, la disposition des haut-parleurs ou moniteurs, dans le studio, donc voilà, on dit à peu près la même chose. Les modes, en anglais, on dit standing waves. En français, on dit les ondes stationnaires. Et je crois que tout le monde comprend plutôt le mot mode. Il faut éviter le mieux possible de placer les enceintes et aussi la position d'écoute dans une position où les modes sont forts. Donc, position de crête, donc à ce moment-là, on a une résonance ou les creux. Et puis, on va voir ça dans un instant. Alors, quelques petits calculs de base. Donc, c'est pas du rocket science, comme dit Floyd Toole, mais c'est de la science. Donc, les modes, ou les ondes stationnaires, si vous voulez, sont créés quand les dimensions sont égales à la longueur d'onde des fréquences. Donc, par exemple, on peut prendre les multiples 2.5, 1.5, 2, 2.5, 3 fois, etc., etc. On dit aussi en anglais, donc si vous tombez sur les textes en anglais, c'est wavelength. Puis on peut dire que l'effet se traduit par les positions de crête et de creux. En anglais, on dit un null, et le mieux que j'ai trouvé en français, c'est un point d'annulation. Donc, c'est une place où les fréquences s'annulent et puis on a un joli creux. Les fréquences de résonance dépendent des dimensions de la pièce et leur position dépend du rapport ou le ratio, comme on dit, entre les dimensions. Donc, c'est en 3D, donc longueur, largeur, hauteur. Et toutes les pièces ont des modes. Certaines pièces, ils ont plus que d'autres, mais c'est quelque chose où on ne s'achète pas. Donc, toutes les pièces, ils ont les modes. Et puis, d'aller un petit peu plus vers le scientifique, les creux ou les annulations sont les positions de pression basse et peuvent se situer aussi bien sur la longueur de la pièce que sur la largeur. Quels sont les effets de ces sacrés modes? Celui qu'on connaît le mieux, c'est les résonances. Donc, on sait qu'il y a certaines fréquences, que c'est souvent l'effet coin-coin, ou les basses qui bougent, ou des choses comme ça. On a une courbe de fréquence qui est inégale, pas très vraiment bonne chose si on veut avoir une régie où on va faire les décisions artistiques. Mauvais rendement des graves, oh, il n'y a pas de punch dans ton régie. Et puis, le problème, c'est que lui, il est peut-être en train de dire ça dans la position d'un creux. Quelqu'un qui est juste un mètre à côté, il dit, il y a beaucoup trop de basse. Donc, les modes, ils ont la fâcheuse habitude de se promener, donc, et puis, suivant où on se situe dans la pièce, soit c'est bien, soit il y a trop, soit il n'y a pas assez. Donc, et puis, on couvre ça en disant que les basses varient selon l'endroit dans la pièce. Et la plage de fréquence qui nous embête se situer grosso modo entre 30 et 150 Hz. Les harmoniques, donc c'est avec ça qu'on peut calculer où se trouvent les crêtes et les creux. Donc le premier harmonique, c'est demi. Le deuxième harmonique, c'est un quart et trois quarts. Troisième harmonique, un sixième. La moitié est 5 sixièmes, et le quatrième harmonique, 8e, 3 huitièmes, 5 huitièmes et 7 huitièmes. Une chose à bien garder en tête, c'est que les harmoniques s'atténuent. Donc, la deuxième harmonique se situe en moyenne à moins 6 dB par rapport à la première harmonique, et ainsi de suite. Donc, on fait moins 6. Moins 12, moins 18, moins 24. Donc, on peut déjà dire, OK, les harmoniques qu'il faut vraiment adresser sont le premier et le deuxième, et puis pas besoin de faire aussi beaucoup de travail sur le troisième et quatrième. De nouveau, question de place, question de budget, etc. Donc, juste pour dire que ça peut être un vrai problème, le rapport entre les crêtes et les creux peuvent être entre plus 6 jusqu'à moins 30 dB. Beaucoup. Et une autre petite chose à garder en tête, c'est que c'est la polarité des zones de pression change autour des points d'annulation ou de nouveau les creux. Alors moi, j'ai mis pour le premier harmonique un moins. Vous voyez que pour le deuxième, on aura un plus, un moins, et puis après, ainsi de suite. Alors, comment est-ce qu'on pourrait combattre les ondes stationnaires ou les modes? Première, c'est de regarder si on pourrait changer une ou plusieurs des dimensions de la pièce. Par exemple, j'ai été voir un projet de studio dernièrement où ils ont fait un mur temporaire qui aurait eu les effets désastreux. À ce moment-là, ils ont abattu et puis les choses étaient beaucoup mieux. Donc, vous auriez peut-être, selon les lieux, soit la possibilité d'agrandir la pièce pour avoir un meilleur rapport des dimensions, ou de dire, bon, si c'est comme une station de métro, donc à ce moment-là, ça vous donne la possibilité peut-être de rapprocher les murs de chaque bout. Comme ça, vous pouvez utiliser soit comme un baffle pour mettre les écoutes d'un côté, et l'autre bout, les racks pour le matériel ou une salle des machines ou quelque chose comme ça. Donc, il faut plutôt essayer d'utiliser les défauts. L'autre chose, c'est on peut régler l'intensité de la résonance avec la construction des murs. On aurait souvent entendu, oui, mais les murs en béton, c'est super, c'est solide. Oui, c'est pas mal au niveau de l'isolation. C'est peut-être même très bien. Mais je suis sûr que vous avez tous, ou presque tous, fait l'expérience que vous allez dans un abri atomique ou autre, où c'est des murs de béton comme ça, déjà parler, c'est difficile. Puis vous faites comme ça, puis c'est aïe, 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 mais il y a une résonance horrible. C'est parce que les murs sont rigides, donc ça veut dire que le son tape et puis il est presque amplifié. Il n'y a pas d'absorption du tout. Donc, à ce moment-là, on est dans une situation, OK, j'ai un mur super solide, rigide, mais maintenant, si je veux essayer d'atténuer les résonances, donc ça veut dire qu'il faut que j'absorbe l'énergie du son, peut-être il faut faire un lambordage ou quelque chose comme ça, avec juste une couche de plaque au plâtre, et puis peut-être même un peu de laine de verre, laine de pierre ou autre. Maintenant, ici, j'ai l'isolation, mais là, j'ai un membrane qui va vibrer, surtout avec des basses qui vont les absorber. Donc, à ce moment-là, j'aurai l'énergie qui arrive, qui sera absorbée, et puis ce qui arrive à passer là, il sera bloqué pour sortir à l'extérieur. Et c'est la même chose, évidemment, pour les bruits qui viennent de l'extérieur. Parce que l'isolation, c'est comme le mot dit, il faut isoler la pièce interne des bruits externes et puis aussi éviter que les bruits internes sortent. Qu'on n'a pas les voisins qui tapent sur la porte à 8h le soir, juste au moment où tout va bien, pour dire soit vous baissez, soit j'appelle la maréchaussée. Il y a même ceux qui aiment la mathématique qui peut faire une petite formule pour calculer les ondes stationnaires. F égale N fois 345 divisé par 2D, où F est la fréquence, N c'est l'harmonique, et D est la distance entre les murs. Donc comme ça, vous pouvez déterminer les modes et aussi trouver les points qui se chevauchent, parce que ce n'est pas dit que selon les dimensions de la pièce en question, que vous n'auriez pas les crêtes ou les creux qui vont tomber l'un sur l'autre. Donc, de nouveau, il faut essayer d'éviter le plus possible. C'est quelque chose qu'il faut aller avec. C'est une fête de la vie acoustique, donc il faut aller avec le mieux possible, plutôt que de dire non, non, ça n'existe pas, non, 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 non. Il y a aussi les logiciels qui existent pour calculer tout ça. J'ai mis Smart, en fait, Smart Live, ou les autres, c'est un logiciel surtout de mesure. Mais si vous allez sur le site web, ils ont un joli petit logiciel en Excel. Vous entrez les dimensions et puis vous avez les modes. Il y a RPG, qui font toute une gamme de produits, traitements acoustiques, qui ont un petit logiciel qui s'appelle RPG Room Optimizer. Il y a le PMI Modeling Program, et je suis assez sûr que JBL, si vous allez sur le site de JBL Pro, et puis vous allez dans les white papers, ils ont aussi un logiciel de calcul, sûrement grâce à notre ami Dr. Floyd Toole. OK, quelque chose qui n'est pas peut-être aussi évident, c'est quelle est la contribution de la pièce sur le signal sonore. Alors, 2 kHz et plus haut, c'est l'haut-parleur. La pièce n'a presque rien à voir là-dedans. OK, il y aura un peu, mais c'est principalement ce qui sort des haut-parleurs, ce que vous entendez. Entre 200 Hz et 2 kHz, maintenant, on commence à avoir un mélange entre le signal qui sort de l'haut-parleur et ce que donne la pièce avec ses caractéristiques acoustiques. Et le grand morceau, évidemment, entre 20 et 200 Hz, c'est les lieux où c'est la pièce qui devient prédominante. C'est toujours les basses qui sont problématiques. Et puis pour ceux qui aimeraient pousser un petit peu plus loin et travailler l'anglais, je ne peux que vous recommander Small Room Acoustics par Floyd Toole. De nouveau, je crois c'est sur le site jblpro.com. Les réflexions. Bon, ouais, évidemment, c'est partout. C'est les surfaces parallèles et angulaires entre les murs et entre le plafond et le plancher. Donc, un petit diagramme Alors, si vous prenez un ce qu'on appelle un ray tracing program, donc un logiciel de prédiction pour les ondes, pour les réflexions, le moment qu'on arrive déjà à la troisième, quatrième réflexion, c'est partout. Donc, il y a énormément de réflexions. Il y a celui qui tape là, qui va partir là, qui va partir là, etc. et ainsi de suite. Donc, la personne qui écoute est surtout dans une zone où la plupart du son, c'est le son réfléchi et pas le son direct, et que ce qu'on appelle le critical distance est souvent bien avant. Et quelle est la distance critique? C'est le point où le niveau, ou l'intensité ou la pression, on peut appeler ça comme on veut, égale la pression du son réfléchi, ou dans une grande salle, par exemple, le niveau de la réverbération. Les petites pièces n'ont pas de la réverbération. Quelqu'un qui dit, oh, ben, j'ai un super studio qui fait 12 mètres carrés, il a un temps de réverbération de tel. Non, il a peut-être un temps de résonance ou quelque chose, mais c'est surtout pas un temps de réverbération. Les petites pièces ne sont pas isotoniques, comme on dit. Donc, c'est les grands espaces qui ont un temps de réverbération. Les petits espaces, c'est surtout juste les résonances. Alors, si vous n'êtes pas sûr que vous avez un problème de réflexion, vous dites, ça me semble bien, il y a un petit test tout simple, c'est que vous passez de Brie Rose dans un haut-parleur, et puis vous faites comme ça. Alors, s'il fait... Vous avez les réflexions. OK, traitement. Un point d'annulation est une zone de pression basse avec une velocité haute. Donc, ça veut dire le meilleur traitement, c'est un diffuseur. Et le point de résonance est une zone de haute pression avec une velocité basse. Il faut mettre un absorbeur. OK, on va revenir là-dessus un petit peu. Mais ça, c'est déjà deux points de base qui sont très utiles. L'acoustique et les haut-parleurs font partie intégrale, donc il faut toujours penser que c'est deux parties. J'ai toujours un peu de problème quand les gens disent « Ouais, je viens de faire une super régie, alors maintenant on va faire des tests pour les moniteurs. » Ah bon? Mais comment vous savez que les moniteurs sont bien pour la pièce? Je sais qu'il y a la manie un petit peu, ouais, mais il faut que j'essaye, il faut que nanana. Le problème, c'est si vous ne faites pas la conception de votre régie avec les moniteurs déjà sélectionnés, vous allez avoir des problèmes. En règle générale, les gens qui font ça, ils sont en train de changer l'écoute tous les 3-4 mois parce que, ouais, c'est pas exactement ce que je pense, hein, c'est pas vraiment ça. On peut dire qu'il y a deux montages différents, grosso modo, donc encastré ou soffit mounting, comme on dit, ou freestanding, donc ça veut dire l'haut-parleur posé sur un pied. Dans les deux cas, c'est très important que l'enceinte soit découplée du bâtiment, du plancher, pour qu'il fasse vibrer le moins possible toute la construction autour. Égalisé ou pas égalisé, bon, voilà ça. Avant, quand on avait les égaliseurs qui faisaient des phasages horribles, c'était un point de discussion. Maintenant, il y a les égaliseurs qui fonctionnent très bien. Donc, pourquoi pas? Donc, ce serait plutôt les paramétriques de haute qualité. Comme ça, on peut cibler vraiment où se trouve une fréquence juste pour améliorer un petit peu. L'électronique ne peut pas tout faire. Donc, ça, c'est une autre grande erreur. Beaucoup mieux d'avoir la pièce le meilleur possible, niveau construction acoustique de la pièce, et après, c'est juste la cerise de gâteau. Il y a aussi les systèmes, on pourrait dire, égalisation automatique, qui varient entre le petit système avec un receiver home cinema, les systèmes DSP, qui visent le monde de studio. Personnellement, je trouve aussi que ça pourrait être la cerise sur le gâteau, mais qui, à mon avis, seulement, ne remplacerait jamais de le faire la régie comme il faut, le plus possible, Et après, OK, si on veut, par exemple, un grand studio de broadcast qui a une dizaine de studios qui dit, bon, on aimerait quand même avoir la possibilité de passer les programmes entre chaque studio et puis trouver la même chose. Alors, s'ils ont fait déjà les studios un peu comme il faut, donc pourquoi pas? Le système, OK, l'intégration du système technique avec l'acoustique et la réponse sonore, OK, c'est un petit peu l'évidence même, mais il faut toujours le garder en tête. C'est intéressant de penser qu'on pourrait comparer le son avec la lumière. Il y a les réflexions, diffraction, l'absorption, diffusion. Par exemple, nombre de fois qu'on va dans un studio, même un grand studio, et il y a une dizaine d'écrans vidéo devant l'écoute. Et après, mais on a un monitoring, merde. Mais ça ne m'étonne pas qu'ils sont en train d'écouter sur 5 systèmes de moniteurs différents, parce qu'il y a tellement de diffractions et autres avec tous ces écrans que je suis sûr que la moitié des clients, ils sortent et puis ils reviennent. Mais disons, ça ne sonne pas du tout comme ça chez moi. Ce n'est pas un système d'écoute, de monitoring. C'est une pièce pleine de matériel sur tous les écrans et avec tout un éventail d'opales. Donc, ils auraient même attendu d'ouvrir un magasin d'IFI que de dire que c'est un studio de contrôle. Je suis un peu méchant là, mais franchement, quand on va dans une régie, on dit, bon, en tout cas, il n'y a pas un demi-million. Et puis on voit les écrans des moniteurs placés n'importe où. Et puis que personne n'est venu dire, mais vous faites quoi? Les matériaux acoustiques, bon, on pourrait dire grosso modo, c'est les absorbeurs, les diffuseurs. Il y a maintenant les produits sur le marché, donc déjà faits, qui sont très bien. Mais de nouveau, si vous avez un budget un peu limité, puis vous avez un petit peu de savoir-faire, puis vous avez un frère qui est menuisier, vous pouvez le faire vous-même. Bon, on va citer quelques marques là. Jocavi de Portugal, tiens, les Portugais, et ils font une gamme super. Ils ont un look d'enfer et ils fonctionnent très, très bien. Et ils donnent aussi les courbes de réponse pour chaque élément. Donc, c'est des gens qui sont aussi très sérieux. Il y a Auralex, qui sont assez mondiales maintenant. RPG, Cinequal. Je mentionne Cinequal parce que ça fait partie d'une entreprise qui s'appelle Cinec Fabrics à Barcelone, qui font beaucoup pour les cinémas, les salles de conférence ou les grands espaces. Mais ils ont un produit qui s'appelle Cinequal. C'est comme une laine minérale, donc ce n'est pas une laine de verre, mais c'est une laine minérale qui pourrait être, avoir une finition tirée de presque toutes les fabriques de la gamme de Cinequal. Donc vous avez un produit qui fonctionne super bien, surtout pour les fréquences moyennes, qui a un très bon look. Alors, en vitesse, une diffuseur. Mais c'est toujours dans les vieilles marmites qu'on fait la soupe, etc., etc. Et une qui est très facile à faire, c'est un polycylindrique. Donc ça veut dire que je veux diminuer le creux. Donc je vais diffuser. Je prends un peu de soie de bois croisé très fine ou de Pavatex. Je fais deux ou trois comme demi-lune, vous voyez, de bois là. Je peux remplir aussi avec laine de verre, laine de pierre. Comme ça, maintenant, ça fonctionne comme diffuseur. Et parce que j'ai rempli avec la laine de verre, quelque chose comme ça, ça devient un absorbeur. Les grandeurs, bon, c'est presque au pifomètre, donc c'est de manière très scientifique, mais on pourrait dire une largeur entre 80 cm, 120 cm. Et si vous pouvez faire l'autre presque plancher plafond, c'est bien. Donc c'est assez facile à faire et ça marche très bien. Les absorbeurs, bon, moi, ça pourrait être les membranes, autrement connues sous le nom de trap. Il y a les autres diffuseurs qui sont courbés ou autres qui présentent les surfaces irrégulières comme ça. L'autre avantage, à part le fait que vous avez les modes ou les ondes stationnaires qui sont brisées, qui sont cassées, c'est que maintenant, avec plus de diffusion, de son, on commence à avoir une plage de fréquences qui est beaucoup plus égale et souvent ça donne beaucoup plus d'espace. Donc il y a à la fois le côté traitement acoustique, mais on pourrait dire qu'il y a aussi le côté amélioration acoustique. Bon, je ne sais pas si vous voyez là, ça c'était un home cinéma qu'on était en train de faire, mais il était assez grand et puis il était fait comme un petit studio de post-production. Parce qu'on avait une surface de 70 mètres carrés. Donc ce que vous voyez, c'est l'arrière avec justement les polycylindriques, avec les places pour les autres par le surround. C'est surtout le mélange de diffusion, absorption, qui commence à produire un champ sonore qui est beaucoup plus homogène. Bon, là, on est en train de faire même genre de choses qui peuvent être utilisées à la fois comme studio, comme salle de production. Puis là, on est en train de faire le montage d'un baff avec les autres parleurs. Ça, c'est un podium qu'on est en train de faire à l'arrière. Donc, cadrage solide. Donc, niveau de construction, il faut toujours être solide, vissé, collé. Là, on a combiné l'esthétique avec la pratique. Maintenant, c'est le studio suisse, donc de Pierre Borel, qui va nous parler un petit moment. Donc là, il avait le problème que le studio n'était pas mal grand, mais la pièce pour le régie était assez petite. Donc, de nouveau, c'était une question d'absorption pour les basses, diffusion. Bon, l'intégration des données. La planification, toujours la planification. Vous allez gagner énormément de temps en passant du temps avec la planification de base, de savoir où vous allez, de vraiment regarder le plus possible. De toute façon, dans tout projet, on va trouver les choses à changer. Mais le plus de planning qu'on peut faire avant, le mieux c'est. Bon, ben, le budget, nous avons parlé, mais il faut toujours laisser assez de budget pour la partie de l'acoustique, l'isolation et autres, et pas tout mettre sur le matériel. Vous pouvez changer le matériel dans votre studio n'importe quand. Changer la pièce, c'est beaucoup plus facile. Alors, je vous souhaite une très bonne chance pour vos projets. Et maintenant, monsieur Borel. Merci. Ça suffit, toi, autrement, au coin.
Radio, autre culture.